Le Perosh HaTosfos, Mashma. Mashe Kofalem Hachegilis, Humodoa Rabba. Mashe Lokimu Israël HaTorah. Et, encore, d'après l'explication de Tosfot, il ressort que le fait que Dieu a renversé sur la montagne comme une cuve, eh bien ceci entraîne qu'il y a une grande protestation, à savoir que laquelle, Mashe Lokimu Israël. À Torah, le fait qu'Israël n'a pas accompli la Torah. Imkei, c'est ainsi. Yesh lishol, il y a lieu de s'interroger. Yaf algav, shechozru, vekiblu aleyem bimei Mordechai et sa Torah. Bien que, comme semble dire la suite de la Gemara, ils aient changé d'avis et ont accepté sur eux la Torah à l'époque de Mardoché, mikol mokom, hadoros, shehoyo koedem, shechozru vekiblu bimei Mordechai. Les générations, c'est les deux. Les générations qui se sont trouvées entre le moment du don de la Torah au Sinaï et l'époque de Mordechai, Eir, Nenshu, Al-Shelokimo et sa Torah. Comment est-ce que Dieu a pu les punir pour les transgressions de la Torah? Je vous souvenais, on avait parlé de ce problème. Ça reste incompréhensible. Si ça était vraiment ainsi que Israël peut contester. Lorsque dit Rashi, si Dieu les convoque au tribunal, n'est-ce pas, si Dieu cite en justice, il dit pourquoi ils venaient pas accepter accompli la Torah, ils répondront, on l'a reçu de force. Alors on ne comprend pas, on ne comprend ni la Gemara, ni le Rashi. On verra que ce Rashi ne signifie pas justement. Il signifie ce qu'il a écrit, Rashi, mais nous ne savons pas le lire. Parce que sinon c'est impossible. Entre le moment de la Torah, qui a Matan Torah, et l'histoire de Mordechai qui est au 5e siècle avant l'ère chrétienne, eh bien pendant toutes ces générations, Dieu n'aurait pas pu punir Israël, et pourtant, il y a eu punition, il y a eu galout, il y a eu envoi en exil, etc. Donc, il y a une contradiction apparente. Et il faut l'expliciter. Comme je vous l'ai dit, le problème n'est pas ça, n'est-ce pas? Parce que les Chachamim ne sont pas gênés lorsqu'on dit que Dieu a pris la montagne, a souhaité la renverser. Ça ne gêne pas les Chachamim. Ça, c'est naturel. Ce qui les gêne, c'est qu'il faut qu'il y ait une logique, une cohérence logique. Si on dit là, c'est le Nishma, ça ne veut pas dire que Dieu a été obligé de sauver la montagne pour les forcer. Il y a une incohérence. Il faut que ce soit logique. Comment est-ce que donc on a pu les punir tant qu'ils n'ont pas accompli la Torah? Vahareyesh modoa rabba, il y a une grande tentation. Vahadaïn, lo chazru vekiblu et la Torah. Et encore, jusqu'à l'époque de Mordechai, ils n'étaient pas revenus et acceptés sur la Torah. Alors le Maharal va répondre comment il faut comprendre le Tosfos. Il dit voilà, bon, on a vu comment on ne peut pas le comprendre. Donc, comment est-ce qu'il faut le lire? Qu'est-ce que Tosfos veut dire? Bien sûr, comme le disait Rav Ashkenazi, il est bien évident que personne ne va contredire un Tosafot. Ça serait stupide. Le Mara ne va pas se donner le ridicule de dire que Tosafot n'a pas compris la Gemara. Il va nous montrer que nous avons un risque de ne pas comprendre la Gemara. Et que, bien entendu, ce que Tosafot dit est exact à 100%, c'est-à-dire à 1000%. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, Tosafot? Il ne faut pas dire ce que nous lisons peut-être avec nos a priori, à moins que nous ayons compris déjà ce qu'il a dit. Mais il va nous montrer ce que Tosafot a dit vraiment. Le Tzorir Lomar, et il y a lieu de dire, le Perosh HaTosfot, à l'explication de Tosfos, qui hu Yisborach, Dieu, Yodea hu, il sait, lui Dieu, sous-entendu, mais peut-être pas Israël, Shelo hoyu chozrin rak bishvil shero esoei shagodola, que le recul, donc cet apparent refus, ce qui peut être interprété comme un changement d'avis, n'est-ce pas, se rétracter, revenir, retourner, ça veut dire faire marche arrière ou ça veut dire changer d'avis. Donc ce terme équivoque de recul, qui peut donc être interprété comme un recul devant une peur parce qu'il y a un grand feu, ou bien comme un changement d'avis, Dieu sait que cet acte qu'ils ont fait, « chez lo royo hozrin rak bifé shero esaifedola » Dieu sait qu'ils ne vont reculer que parce qu'ils verront ce grand feu. Vedorze et une okrasora. Et ça, ce n'est pas un changement d'avis. Il s'agit d'un recul. Ils se trouvent devant ce feu énorme, lequel vous souvenez, je vous ai rappelé, que leur âme vraiment est sortie de leur corps. C'est quelque chose, cette scène apocalyptique, eh bien, il y a un moment de recul. Et nous verrons. Il y a comment Imre Yehuda qui explique cela très bien. Eh bien ça, Dieu savait que Il ne s'agit pas donc d'un changement d'opinion, ce n'est pas une rétractation, c'est un recul. Vedovorze et inochazoro. Et ça, ce n'est pas un changement d'avis. Qui Israël hoyosevurin, qui tomit yedaber Hashem Yisburach imohem. Car Israël, quand il a vu ça, il a pensé que tout le temps que va durer la révélation, Dieu va leur parler de cette façon-là. Que Dieu va toujours leur parler dans ce contexte. Veillez lohem hachazara. Et il y a eu donc, il y aurait nécessité pour eux de reculer. Abal Hashem Yisburach yada. Mais Dieu savait qu'il oyeze rak bepamaze. Que cette chose-là, cette situation spécifique, extraordinaire, n'aura lieu que cette fois-là. Que les autres fois, quand il y aura dialogue entre Israël et Dieu, ça ne se passera pas dans ce contexte-là.
Mais par Moïse.
Mais par l'intermédiaire de Moïse. On va y venir tout de suite. Qu'il veut dire. Pour l'instant, il ne dit pas de cette façon-là. J'explique le cas dont nous avons parlé. Ou que Moshe Omrou, et c'est comme d'ailleurs ce qui est écrit un peu plus loin dans l'Exode, qu'est-ce que les Hébreux ont dit ? Daber ato imonu venishmo. Parle-toi, Moïse, à nous les écouterons. C'est-à-dire, nous t'envoyons comme éclaireur. Toi, tu peux supporter, nous pas. Alors parle-toi, nous écouterons. Donc c'est bien clair qu'ils n'ont pas refusé la Torah.
L'accent est mis sur Nishma.
C'est ça.
Et nous écouterons.
Donc nous retrouvons le Nasé venishma. Parle-toi, venishma, ils écouteront. Donc il n'y a pas de refus du Nishma. Le Har, le Maharal, et une Zé Chazara. Donc il n'y a pas ici de rétractation. Il n'y a pas de rétractation. Par conséquent, lorsque nous lisons le Tosafot, nous dit le Maharal, ne vient pas expliquer fondamentalement le fond du problème, quelle est la raison de la Kfiya. Il nous explique, au contraire, attention, lorsqu'il dit Kofoyam Rakedigis, il a mis la montagne. Ne croyez pas que ça voulait dire que les gens ont changé d'avis. Ça veut dire, il a mis ça parce qu'il a vu, lui, que les Juifs, quand ils verront ce grand feu, et ça, c'est pas dit dans notre Gemara, justement, explicitement. Alors, Tosfot l'explicite, ils verront ce grand feu, dans leur âme va sortir, eh bien, ils auront un moment de recul. C'est pour ça que Dieu a fait Akfiya. Autrement dit, ne croyez pas qu'ils ont changé d'avis. C'est simplement parce que Dieu savait qu'ils auront peur, eh bien, il les aide. Vous savez, quand il faut apprendre à nager, plonge. Non, j'ai peur, papa, plonge. Pousse-moi. On est bien content, finalement, on pousse à l'eau. Eh bien, merci de m'avoir poussé à l'eau, n'est-ce pas ? Parce que je veux bien, mais j'ai peur. Bon, c'est un exemple un peu vulgaire, un peu grossier, mais effectivement, vous verrez qu'on ne peut pousser quelqu'un qui est déjà d'accord. Ça vous sortira plus tard.
Remarquez un exemple bien choisi, parce que la Torah est comparée à l'eau.
Alors, Mayochaïm, vous êtes à l'eau. Mais en plus, vous verrez effectivement qu'il y a acceptation libre avant, qui est nécessaire, acceptation libre après, qui est nécessaire. Enfin, et on est, en effet, on ne force que quelqu'un qui veut bien. J'anticipe, mais pour que vous compreniez bien qu'il n'y a absolument pas que l'explication n'est pas tirée par les cheveux. Et le Tosafot, qui connaît bien sûr tout, y compris le Tanhuma, s'il n'utilise pas, c'est qu'il cherche à nous expliquer uniquement ce point précis. Il ne s'agissait pas de Chazara, donc ne lisons pas qu'il y avait changement d'avis. C'est clair ? On continue. Alors là, on va maintenant attaquer le fond du problème.
Et d'ailleurs,
je t'en prie,
une petite mise dans l'image que tu as donnée. Étant donné qu'il y a un verset des prophètes qui dit Isaïe, la Torah est comparée à l'eau, que tout celui qui a soif aille à l'eau. Et on a jeté à l'eau que celui qui avait soif, c'est-à-dire qui était prêt à.
La rencontre de deux libertés.
Liberté, une nécessité plutôt, on verra. Là, tu anticipes un peu. Mais alors, le Maharal dit, mais d'accord, mais enfin, il ne faut pas noyer le poisson. Ou Mikol Mokom Yesh Kan Modor. Mais de toute façon, comme dit la Gemara, il reste une protestation. Bon, très bien, nous savons que ce n'est pas ça, mais il y a une ambiguïté. Disons que pour le moins, même si on veut diminuer le problème, il reste une ambiguïté. Il y a une protestation possible, parce qu'il y a eu quand même de force.
C'est-à-dire le fait est là, et donc la contestation est possible. Mais la motivation.
Non, non, voilà. Comme il y a la contestation possible, il y a protestation. De sauf, car en fin de compte, ils ont quand même fait ce recul. Et ce recul, on peut toujours se demander, est-ce que c'était, ils ont Hosrin, ils ont...
Et je traduirais peut-être, ils auraient fait ce recul s'il n'y avait pas eu le Gigit, s'il n'y avait pas eu le Bakhi. Hayou, ici, c'est inconditionnel.
Ah bon, parce que moi j'avais compris que j'étais tort.
Un passé, non. Sinon il y aurait Hazrou.
Oui, c'est ça. Hayou Hazrim.
Hayou Hazrim. Ils auraient reculé.
Oui, c'est ça, comme il dit. Après, pourquoi a vu qu'ils reculeraient, c'est ça. Ils savaient que de toute façon ils reculeraient. Exactement. Car de toute façon, il y aurait eu ce mouvement de recul, et ce mouvement de recul, on n'aurait jamais pas su comment l'interpréter. S'agit-il d'un changement d'avis, je me sauve parce que j'en veux plus, ou ouais. Simplement d'un mouvement de peur, et même peut-être plus que de peur, le Imre Yehuda, rappelez-moi... Oui, non, l'Imre Yehuda spécifiquement explique ce point particulier, rappelez-moi demain si j'oublie de vous le citer. Rak, Bishvil de Hadar... Kiblou Alehem. Mais, étant donné que par la suite, ils l'ont réaccepté, ils l'ont pris sur eux, Iglai Milso le Mafreya. Le phénomène, le fait, c'est-à-dire la signification du fait, a été est dévoilé a posteriori. C'est-à-dire, c'est par la suite, c'est à l'époque de Mordechai, ils ont librement accepté la Torah, que le sens de ce qui s'était passé au matin de Torah s'est dévoilé. Ce n'est qu'au moment où, dit le Maharal, les Juifs, librement, à l'époque de Mardoché, ont pris sur eux la Torah, et dans un contexte de liberté totale, comme nous le verrons plus tard, ce n'est là que s'est dévoilé le sens exact de ce qui s'est passé au moment du matin de Torah du Har Sinaï. C'est là que nous savons, l'ambiguïté est levée, nous savons qu'il n'y a eu qu'un mouvement de recul à cause du feu, et non pas un changement d'avis. Chez l'Oroyo Rosrin, à savoir qu'ils n'ont reculé, Rak Bishvil, chez Royo Sevourin, Yedaber Hashem Isboar, Yemoem Tomid, seulement parce qu'ils pensaient que Dieu allait toujours parler avec eux dans ce contexte apocalyptique, velo yochlu l'iskayem, et il leur était impossible, l'iskayem, de subsister, de tenir le coup, de rester en vie, comme Moshe Omru, comme d'ailleurs il est dit dans le Deutéronome 5:22, im yosfim anachnu lishmoa eskol Hashem elokeinu od umasnu. C'est un verset de Deutéronome où Moïse rappelle le dialogue qui a eu lieu entre au moment du matin de Torah et il dit, souvenez-vous ce que vous m'avez dit, n'est-ce pas, si nous continuons d'écouter la voix de Dieu encore, bien nous mourrons, nous allons mourir. Alors, vas-y toi, parle et nous écouterons. Oui, supplie Moïse d'aller. Donc le Maharal montre bien que il ne s'agit pas d'un refus, puisque aussitôt après, ils disent, va, nous allons écouter, parce que, et pourquoi nous reculons, nous avons peur de mourir. Nous ne pouvons pas pouvoir tenir devant Dieu. Uma, chez Chosrou, le Kibbalé Matora, Ein Zerak, Gilui Milto, chez Lotorou. Et le fait qu'ils ont re-accepté sur eux la Torah, à l'époque de l'Assyrus, ceci n'est pas autre chose qu'un dévoilement du fait qu'il n'avait pas changé d'avis. L'autoroute, ça veut dire, n'est-ce pas, changer d'avis. Vehanire, qui lo hoyu rozrim bohem klal. Et, le Maharal va plus loin. Il dit, et il est clair, il semble bien, que les Juifs n'avaient pas du tout changé d'avis. Il n'y a jamais eu, de leur part, un refus. Il n'y a jamais eu, un changement par rapport à leur acceptation première. Uma, chez Hokshu, de Toysfos. Et la question, la difficulté soulevée par les Tosafistes, l'homo kofoalem hake gigit, hare kvar kidmu nasel nishma, pourquoi est-ce que Dieu a fait ce renversement de force? Ils avaient déjà dit, nous ferons et nous écouterons. Dovorze, alors, cette obligation, cette chose-là, Mipnei, alors là, c'est là où il donne sa réponse de fond, qui a Toira, chez qui le Israël, bo kiyum ha'olam. Car la Torah, qui est à Israël, contient en elle, kiyum, ça veut dire à la fois l'existence, et ça veut dire la conservation. Je traduirai ici la conservation de l'existence. C'est elle qui contient, c'est les deux mots à la fois, kiyum, la possibilité pour le monde de subsister. C'est la fin de notre Gemara. Nous disons Gemara, Dieu a fait un tenaïm, une stipulation avec le Maaseh Bereshit, l'exode du commencement, en disant, si Israël accepte la Torah, eh bien, atem iskaimin, vous allez subsister, kiyum. Sinon, je vous ramène au Tov Avot. Alors, donc ici, le Maharal, mais en parallèle, il dit, la Torah, qui est bien à Israël, elle est à Israël. Vous verrez qu'il y a une chose triple. Il y a d'une part une alliance entre Dieu et Israël. Et si vous acceptez, top, c'est bon. Sinon, là-bas sera votre tombeau. Et on a vu hier comment le problème se pose par rapport à Torah orale surtout. Deuxième chose, il y a un contrat, une autre alliance, qui passe aussi par la Torah, mais entre Dieu et le monde, qui passe aussi par la Torah, mais surtout par la Torah écrite. Et nous verrons comment cette difficulté se résout en réalité très bien par la suite. Mais retenez déjà qu'effectivement, Rashi et tous les commentateurs montrent que l'accord qui a été fait avec la Torah, avec le monde, pour que le monde subsiste, porte essentiellement sur la Torah écrite. Donc ici, on parle de la Torah en général, et dans notre Gemara d'hier aussi, comme je vous l'ai rappelé, on ne parle pas de Torah écrite ni de Torah orale, mais on parle de deux alliances, une avec Israël et l'autre avec le Maaseh Bereshit. Alors, je reprends.
La première chose, c'est l'alliance entre Dieu et Israël, le contrat avec le monde, vous avez dit trois...
Donc, il y a trois éléments, donc. Il y a Dieu, Torah, Israël, Dieu, Torah, monde. Et Israël est impliqué partout. Il est impliqué en tant qu'Israël dans la Torah, il est impliqué en tant qu'Israël dans la Torah pour le monde. Alors donc le Maharal, eh bien la question des Tosfot, elle est, il faut la voir à un autre niveau, au niveau donc historiosophique, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que la Torah qui appartient à Israël, elle contient en elle la possibilité pour le monde de subsister, la seule possibilité. Ou comme chez Omar, et comme il est dit effectivement dans notre Gemara de Shabbat, Im Kaimin Es HaTorah, si Israël accomplit la Torah, Mutav, Im Lov, et sinon, Arzir Es Olam Tov Vavou, je ramènerai le monde au Tov Vavou. Alors, Ve Im Kei, c'est ainsi, HaTorah, Hu Mechuyav Vehechechi, c'est ainsi, la Torah est obligatoire et nécessaire. Et nous retrouvons, pour ceux qui ont été au séminaire de Hanouka, bon, les idées forces du Maharal. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité. La Torah n'est pas quelque chose qui peut dépendre simplement du bon vouloir. Il y a dans la Torah une nécessité. Le monde lui-même, il y a quelqu'un qui posait une question, je crois que c'est Stella qui m'avait demandé. Bon, mais la Torah, on dit que Dieu lui-même, c'est bien toi qui m'avais posé la question avant-hier, non ? Que Dieu lui-même a fait le monde grâce avec la Torah.
C'est ça. Cette présupposition peut annuler tout le commentaire que nous allons faire.
C'est ça. Par conséquent, le problème est de savoir, effectivement, comment va-t-on concilier une nécessité. La Torah est nécessaire au monde, parce que sans Torah, il n'y a pas de... Le monde ne subsiste pas. Bon. Alors, pardon. Attends une seconde. Oui, mais la Torah, il est écrit aussi dans la Torah que Dieu a créé un homme libre. Si tu veux nous reprendre en problème quand on a pris le maral, ce que je voulais dire par là, c'est que la nécessité de la Torah, en tant que l'élément avec lequel Dieu crée le monde et qui est la raison d'être du monde, c'est-à-dire la Torah, c'est-à-dire la moralité, le monde est créé avec confiance. Dieu crée le monde comme étant le lieu de l'histoire de l'homme. Et Dieu crée l'homme comme étant quelqu'un à qui Dieu fait crédit de lui donner la possibilité d'acquérir son être par la moralité. Il faut par conséquent que l'homme mérite d'avoir été créé, et il faut que le monde, par conséquent, qui est le lieu de l'histoire de l'homme, le monde ne peut mériter également de subsister que si Israël va introduire la moralité dans ce qui n'est autrement qu'un déterminisme. Bon. Par conséquent, il y a dans la Torah une nécessité, parce que c'est la Torah qui permet à la fois au monde d'exister et à l'homme d'exister. Alors bien entendu, l'homme est libre, parce qu'on te dit, sinon, Dieu dit, si vous n'acceptez pas la Torah, il va arriver quelque chose pour vous. Et c'est ça, le monde va être réduit au néant. Je t'ai fait crédit. C'est pour ça que le monde survit sans Torah. Alors, ce qu'on a dit, rappelez, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Torah, 2000 ans. Il y a eu pendant 2000 ans, le monde survit quand même. L'humanité survit quand même en sursis. Il s'agit aussi de savoir si Dieu a fait crédit, que le monde payait, bon, ou tu payes. Et à ce moment-là, d'accord, si tu ne payes pas, ben je reprends mon bien. Si tu ne payes pas, bon, je reprends mon bien. Donc apparemment, l'homme est libre. Mais l'enjeu est tellement grand qu'on ne peut pas admettre que le monde et l'homme vont être détruits. Et nous verrons plus loin, c'est pour ça que je dis, nous verrons plus loin, qu'en fin de compte, c'est pour cela qu'il y a 2000 ans d'attente, jusqu'à ce qu'Israël soit prêt, et le moral ira plus loin. Israël sera prêt à accepter volontairement. Ce n'est que là que l'épreuve a lieu. Rav Ascalzi dit souvent, pourquoi est-ce qu'on attend si longtemps pour le jugement dernier? C'est que Dieu attend de pouvoir être sûr que l'humanité peut être jugée et qu'on mérite d'être. On attend de mériter. Sinon, si on nous jugeait avant qu'on mérite, on serait condamné. Et Dieu, qui ne veut pas avoir créé une créature qui va être obligée de condamner à mort ou au néant. Bon, c'est à peu près ça en schématisant. Par conséquent, le moment était venu, nous le verrons tout plus loin, où Israël était prêt, et ça nous allons le voir en détail, à recevoir la Torah. Et Israël avait dit « Nasé benishma ». Donc, par rapport à Dieu, et par rapport à ce qui constitue, comment dire, le maharal, le etsem de la Torah, c'est-à-dire ce qui est la nature même, la spécificité de la Torah, il y a en elle une nécessité. C'est quelque chose qui est de l'ordre, de la nécessité de l'absolu. La Torah, c'est de l'ordre de l'absolu. Et l'absolu ne va pas être soumis, et c'est moi qui ajoute, seulement au libre choix de quelqu'un. C'est moi qui ajoute le seulement, mais il se trouve impliqué, vous verrez, dans le maharal. Ce qui est de l'ordre de l'absolu, du nécessaire, ne peut pas dépendre seulement de la volonté, oui ou non, parce que ce qui est en jeu, ce qui est en jeu, l'enjeu, eh bien, c'est le sort du monde et de ses habitants. Alors, Ve'imke, HaTorah, Hu, Mechouya, Ve'echri. Et le Mara, là, il assène les deux mots les plus forts, il les met là ensemble. La Torah, elle est Mechouya, elle était une obligation, elle est de l'ordre de l'obligation, Ve'echri est de l'ordre de la nécessité. C'est à la fois obligatoire et nécessaire. Ou Ma, Bekar, Shehem Kiblu à Torah, le Vik Dimu, Nase le Nishma. Et bien que effectivement, ils avaient pris sur eux la Torah, et ils avaient dit auparavant Nase le Nishma. Donc, nous voyons bien qu'il y a eu acceptation libre auparavant, avant qu'il se passe cet événement de Kfiya, Mikol Mukom, de toute façon, Nesino le Israël, Nisno le Israël à Torah, que Moshib Atzmo. Effectivement, ils avaient dit auparavant, Nase benishma, librement. Mais la Torah leur est donnée que Moshib Atzmo. On leur donne la Torah telle qu'elle est dans son essence propre. C'est-à-dire, Israël a accepté la Torah. Mais on leur donne, j'allais dire pas n'importe quelle Torah, on leur donne la vraie Torah, la Torah de Dieu telle qu'elle est dans son essence, c'est-à-dire avec son caractère de nécessité, son caractère absolu. On leur donne la Torah dans l'absolu. Cette Torah absolue, la Torah Tachem, la Torah que Dieu a créée, comme dit Midrashim, X mille ans avant de créer le monde, avec laquelle il a créé le monde, c'est cette Torah-là, dans son absolu, qui est donnée à Israël. Et cette Torah-là, donnée dans l'absolu, leur est donnée de façon absolue. Cette Torah nécessaire leur est donnée dans la nécessité, mais après qu'ils aient dit Nasé Benishma. Alors, nous continuons un petit peu, si tu veux, et on reprendra toutes les questions. On a prévu du temps pour toutes les questions. Parce que je pense que certain nombre de questions seront plus claires lorsqu'on aura vu les autres éléments. C'est difficile, mais il faut voir aussi les différents. Oui, j'en prie.
Est-ce que l'expression absolue de la Torah, est-ce que
la Torah leur est donnée, oui. La Torah entière, ici le Maharal ne parle pas de Torah écrite, Torah orale. La Torah entière leur est donnée, il va l'expliquer, leur est donnée dans l'absolu, à ce moment-là, au moment du matin de Torah. C'est ça. Lorsque les juifs acceptent, ça dépend des juifs. Je veux, puis demain je dirai j'ai changé d'avis. Peut-être que je veux, peut-être que je ne veux pas. Mais lorsque c'est imposé, le Maharal va expliquer, c'est imposé de force, donc là il n'y a pas de possibilité de dire, une fois que j'ai accepté, j'ai accepté. Je peux dire j'accepte de force, mais ça a été reçu dans la contrainte, et ce qui est de l'ordre de la contrainte, eh bien, c'est quelque chose qui est absolu. Bon, c'est ça le Maharal.
Si je peux me permettre, je prie, une parenthèse pour donner une analogie de ce dont nous avons parlé ce matin, et Georges Ansel l'a cité il y a une Mishnah du Pirkei Avot, c'est malgré nous que nous sommes créés. Je veux dire,
Baal Korchacha Remolad, tu es né malgré toi. Et c'est la même dialectique dans un autre problème. Tu es né malgré toi. Mais finalement, tout le problème, c'est que c'est moi qui veux exister. Seulement, si ça dépendait de moi, caprice un jour, caprice contraire demain, ce serait d'un aléatoire total. J'ai une fois donné l'exemple suivant, mais c'est toi qui vas préciser. Nous avons deux systèmes nerveux. Le système nerveux volontaire, le système nerveux qui n'est pas soumis à la volonté. Sympathique. Si par exemple le mouvement du cœur était soumis à la volonté, alors un jour je veux que mon cœur batte, et un autre jour j'ai une dépression. Et alors ma vie sera en danger. Par conséquent, c'est à l'abri de ce qui m'est imposé que je suis libre de choisir ma vie. Mais il faut que ça me soit imposé pour que je puisse être libre sans danger. Ça ressemble. J'ai compris à peu près le problème.
On peut y rajouter à ce qu'a ajouté Rabbi Nazi, que ça va beaucoup plus loin, parce qu'il y a une discussion entre qui est le Shammai, est-ce qu'il aurait mieux valu pour l'homme d'être créé ou non ? Donc jusqu'où ça va ? Puisque même, on se demande même, il aurait mieux valu pour l'homme peut-être, mais puisque l'homme a été créé, alors assumons-le. Donc ça va même encore plus loin simplement que dire un jour je veux, un jour je veux pas. Même en général, on peut comprendre que certains hommes puissent dire, il aurait mieux valu que l'homme ne fût pas créé.
Exactement. D'où le nombre des suicides professionnels.
Sous cette forme, parce qu'on aurait pu imaginer d'autres formes, excluant la faiblesse humaine.
Très bien, c'est juste.
Amusant,
c'est juste.
Comme jeu. C'est en supposant qu'il joue.
C'est ça, vous avez raison, parce que la Gemara dit « Noachlo la Abraham chez Nivra ou chez l'Onivra ». Est-ce que c'est bien pour l'homme d'avoir été fait exister par création, c'est-à-dire de penchant, avec l'instinct du mal ou pas ? Et Shammai dit « Il aurait mieux valu ne pas avoir... cette forme d'exister, il aurait mieux valu d'exister comme des anges, par exemple. Voilà, c'est ce que vous vouliez dire. Exact, c'est dans la Gemara. Oui. Alors, il continue, mais alors, si déjà c'est comme ça que nous sommes, malgré nous, il faut s'en sortir. Et pour s'en sortir, Torah ou Mitzvot.
Alors, Mikol Mokom, de toute façon, Nisno le Israël, la Torah, que mot, Shehi Be'atzmo, la Torah a été donnée à Israël telle qu'elle est dans son essence propre, dans son Etzem. Dans son essence propre, le Kevan, chez la Torah, le Atzmo, Herrechi, et comme la Torah, dans son essence, est nécessaire, car ne sinas Torah le Israël, be Herreach, ha Gomur. Et bien, de même que la Torah, dans son essence, est nécessaire, et bien, le don de la Torah à Israël s'est fait dans la nécessité complète. Chez Imei la Torah, Olam Horev, car si il n'y avait pas de Torah, le monde aurait été détruit. Ou Mash et Omru, et ce qui est dit dans la Gemara que nous étudions, de Ikemodo Araba Loraisa, qu'il y a une protestation possible vis-à-vis de la Torah, parce que nous l'avons reçue de force, de sauf, car en fin de compte, Kevon, Sheoso, Ha Torah, Behreah, Nous avons compris pourquoi la Torah était nécessaire de la donner de cette façon-là, mais de toute façon, le fait qu'elle ait été donnée comme ça, la contestation demeure. Nous avons compris maintenant que du point de vue de Dieu, du point de vue de la Torah, et pour la survie du monde, il était nécessaire qu'elle fût donnée comme elle est. Mais il n'en demeure pas moins que ce don de la Torah de la nécessité entraîne donc cette contestation possible. Ve'eir lo yehe kofo aleim harke gigis. Et comment aurait-il possible, comment peut-on imaginer, dit alors le Maharal, malgré les difficultés que pose donc cette façon de donner la Torah, que Dieu n'impose pas la montagne sur Israël, ki yomru ki a Torah eino mochachas ou mochoyeves ve'olam. Que, de façon à ce que les Juifs pourraient dire la Torah n'est pas nécessaire et obligatoire dans le monde. Rak shebo ha Torah le olam bishvil sherotzubo Israël. Simplement, la Torah est venue au monde, aurait-on pu dire à ce moment-là, parce que Israël en a bien voulu. Shehoyu mekablim osam midatom, car ils l'ont reçu avec leur bon vouloir, avec leur libre arbitre, avec leur propre choix. Ve'eino dovar mukhar, mais il ne s'agit pas là de quelque chose qui est nécessaire. C'est-à-dire que la Torah, à ce moment-là, aurait été conçue comme quelque chose qui dépend d'Israël, bon, comme j'allais dire un phénomène culturel ou une révélation d'une morale possible, mais pas de la moralité nécessaire et absolue. C'est ça ou rien. C'est ça ou rien. C'est ça ou le néant pour le monde. Ve'eina davar kar, et il n'en est pas ainsi, qui a Torah himeru yeves be'hechea. Il n'est pas ainsi, on ne peut pas dire, bon, la Torah, on l'accepte si on veut bien, on l'accepte pas si on ne veut pas, car la Torah, elle est obligatoire et nécessaire. Ve'imlo hoyo ha'Torah hoyo choref ho'olam. Le to vovo, comme il est dit, si il n'y avait pas de Torah, le monde retournerait au néant. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de moralité, le monde, la nature sans moralité retourne au néant, car elle ne survit que dans l'attente de la moralité qui justifie l'existence du monde. Ou que si, shiroyo ha-Torah be'atzmo, et comme la Torah était dans son essence propre, de même que la Torah était dans son essence propre, kach hoyo kabaluso shehichia osom alze. De la même façon, c'est fait sa réception que Dieu les a forcés, c'est-à-dire dans ce qui est un acte de nécessité, les a forcés pour cette Torah. Ve'od, et encore, il faut ajouter, Bishvil kach hoyokof alem hachagigis, il y a une autre raison pour laquelle Dieu a renversé sur la montagne, que dei sheye anusim. Il y a une autre raison, Dieu a renversé sur la montagne de façon à ce qu'il soit des gens anusim. Vous savez qu'on appelle anusim, celui qui a été pris de force, j'allais dire violenté. Violé. Shehoyu me'anes osom al kabbalah sa Torah, car Dieu les a violentés en leur donnant la Torah de cette façon-là. Ve keivan shehoyu Israël anusim, et du fait que Israël était donc violenté, ou me'anes ksiv, et au sujet de celui qui viole, il est écrit dans la Torah, dans le Deutéronome, si un homme, je vous donne le contexte, prend de force une jeune fille, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Lo yuchal le shilcho kol yomov. Il ne pourra pas la renvoyer. Le seul cas, je crois que c'est le seul, hein.
La divorcée, quoi.
C'est le seul cas, le divorce interdit, hein. C'est le seul cas.
Il y en a d'autres, mais ça.
L'un des cas, en tout cas, où le divorce est interdit, est impossible, c'est lorsqu'un homme a pris de force une jeune fille d'Israël, bon, et qu'il l'épouse, elle peut demander le divorce. Mais lui, bien sûr, elle est libre de ne pas vouloir de lui, mais lui ne peut pas la répudier. Et quel que soit ses torts par ailleurs à elle, quel que soit ses torts, c'est important. Lorsqu'un homme prend de force, viole une femme, il se marie ensuite, d'ailleurs le fait de la violer, il y a acte qui rend ce lien, ils sont mariés, elle peut demander le divorce, mais si elle ne veut pas, lui n'a pas le pouvoir, n'a pas le droit. La halakha est comme ça. Le divorce, dans la halakha quotidienne, est impossible pour celui qui a pris de force. Alors, le Maharal nous dit, voilà, eh bien, nous trouvons dans la même situation. C'est dit que, d'ailleurs, c'était Olivia qui avait rappelé, n'est-ce pas, l'autre jour, pour cette pension du Maharal, à savoir que, voilà, une autre raison, c'est qu'à ce moment-là, Israël devient dans cette situation de viol. Sous-entendu, et Dieu ne pourra plus, et on a vu ça au séminaire de Hanouka, et Dieu ne peut plus, donc, à ce moment-là, repousser Israël, et c'est une garantie de survie pour Israël et pour le monde. Par conséquent, on ne peut plus ramener le monde au Tohu-Bohu. On ne peut pas rejeter Israël, même si Israël va être infidèle. Et vous savez en combien la Torah, sans arrêt, et les prophètes comparent à une femme infidèle, Israël. Alors, je reprends. Car nous avons dans Devarim, donc il ne pourra plus jusqu'à la fin de ses jours, il ne pourra pas la renvoyer. Rechein lo yifored Israël miHashem yisbor leolam. Et ainsi, Israël ne pourra pas être détaché, sera séparé de Dieu jusqu'à la fin des temps. Vechar omru, et c'est ainsi qu'on dit dans le Midrash. Alors il y a un truc qui est entre parenthèses. Bon, l'éditeur remarque que effectivement, ça se trouve également dans le Midrash du Gouarier. Et ça se trouve également dans un autre livre qui s'appelle Mincha Beloula, mais on ne connaît pas la source. C'est-à-dire qu'on n'a personne à trouver ce midrash, n'est-ce pas? Alors, ce midrash, c'est peut-être un midrash qui était oral, ou un midrash qui s'est perdu. Vous savez, beaucoup de textes sont perdus. Il y a un Rashi très connu dans le Deutéronome, où Rashi dit, avec un enseignement très important, Shamati, j'ai entendu. Et on n'a pas trouvé la source. Le Rav Frenkel, qui est le Rav Rashi, le Rav Tel Aviv, m'a dit un jour, j'ai pris des cours avec lui, c'était en Suisse.
Rassurez-vous,
je précise, en vacances en Suisse, où j'y rencontre beaucoup, beaucoup de chaque été de rabbanim d'Eretz Israël avec lequel j'ai donc la chance de pouvoir étudier, eh bien, elle m'a dit, bon, ben, évidemment, on a cherché, et c'est un grand ami Chacham, bon, elle a dit, effectivement, bon, alors, si, personne n'a trouvé la source, mais si Rashi dit, j'ai entendu, ben, on sait qu'il ne l'a pas inventé, n'est-ce pas? On lui fait confiance, on sait que beaucoup de... Il y a eu des autodafés, il y a eu des manuscrits perdus, ou bien c'était oral. Et là aussi, bon, je le signale, cette parenthèse nous dit que le Maharal cite ce Midrash, je veux dire que le Maharal aurait pu faire le Drash lui-même, je veux dire que l'explication, elle s'impose d'elle-même. Le Maharal nous dit, non, j'ai vu dans ce Midrash cette explication, mais ce Midrash, nous n'en connaissons pas le texte. Alors, donc, je continue après la parenthèse. Donc, nous trouvons dans un Midrash, fin de parenthèse, que ce verset s'applique à la Posuk sur le verset de la Torah, ve lo, si y est le Isho, lo, yuchal, le Shilcho, kol yomov. À lui, elle sera pour femme, cette jeune fille qu'il a prise de force, et il ne pourra pas la renvoyer tous les jours. Le Maharal dit bien, il y a un Midrash qui applique cette situation du Deutéronome au cas d'Israël et de Dieu. Kacher, à Kodesh Baruch Hu, que chez vous, à Kodesh Baruch Hu, l'Osses Torah l'Israël, Kofo Alem Harigis, parce que Dieu est venu donner la Torah à Israël, il a renversé sur la montagne comme une cuve, chez Yekablu Toyroso, pour qu'il reçoive la Torah, Kevan Shekar, Hare Israël, Anusasso, chez la Kodesh Baruch Hu. Et de cette façon, Dieu est devenu Israël est devenu la violée de Akodesh Baruch Hu, ou ve Anusa Ksiv, et d'une violée, il est écrit, lo yuchal, le shilcho kol yomov, il ne pourra jamais la renvoyer. Ve ilu hamefate einbo, shelo yuchal, le shilcho. Et donc le séducteur ne pourra rien trouver en elle.
Non. Alors que dans le cas où il y a eu séduction mais pas viol,
c'est ça. Et lorsqu'il y a séduction et pas vol, Einbo, il n'y a pas lieu, il n'y a pas de possibilité de dire qu'il ne pourra pas la renvoyer si c'est par séduction et pas par viol. Si Dieu avait seulement séduit Israël et qu'Israël avait accepté, on n'aurait pas pu dire ça. Mais ça a été un viol. Vehatamku, j'avais fait un faux sens. Je te remercie de me corriger.
C'était écrit à l'angle violette.
Varatamu, Kevan, Shehoyo, Anes Oso. Et la raison en est que c'est parce qu'il a été Anes, il l'a pris de force. Imkei, Huroyo, Maria Osom, El, Haribur, Hazé. Et si c'est ainsi, donc il a forcé Israël pour créer un lien, un ribour, ce lien. Va ribour, Shehu, et vous souvenez qu'on a les mêmes termes, on les a trouvés à Hanouka. Et un lien qui est de l'ordre de la nécessité, qui est de l'ordre de l'absolu, à ce lien, il n'y a pas de possibilité de rupture, pas de possibilité d'éloignement, de séparation. Kevan, Sheo, Haribur, Hachéhi. Comme c'est de l'ordre d'un lien, qui est un lien de l'ordre de la nécessité. Vapirosh. Asher, alors l'almara dit, mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'abord, les deux explications sont complémentaires. Et je n'ai pas dit que la raison pour laquelle Dieu, le Midrash ne dit pas que la raison pour laquelle Dieu a violé Israël, c'est pour qu'il soit, il ne puisse pas la répudier. Et dans le Gouvarier, dans son commentaire récité, il s'explique là-dessus en disant, est-ce qu'on imagine que Dieu va faire un péché? Parce que c'est un rêve d'interdire de violer quelqu'un. Non, la raison, la vraie raison, c'était parce qu'il fallait donner la Torah dans sa nécessité. La nécessité, c'est que la Torah, elle est de l'ordre de l'absolu. Donc il faut l'imposer. La Torah est imposée. Mais il se trouve que cet acte d'imposition fait que par la même occasion, Israël va se trouver dans la situation d'avoir été violé. Mais ce n'est pas le but. Et par conséquent, c'est bénéfique pour Israël. C'est ça que le Maharal va expliquer maintenant.
C'est pas que l'intention,
voilà,
c'était de s'attacher.
C'est la conséquence.
C'est
une implication.
C'est ça. Alors, Vea Pirush, Asher Perashnu, Hu Pirush,
Zeve
Atzmo. Et l'explication, c'est une explication qui porte en elle-même. C'est une explication propre, autonome. L'explication autonome. Velo Omar, Bamidrash. Il n'est pas écrit dans le Midrash, Bishvil, Sheroyo, Anusim, Kofolem, Ha.
En vue de quel?
Ce n'est pas afin qu'ils deviennent des gens violés, que Dieu a renversé sur eux la montagne.
Mais d'ailleurs, je vous propose de changer le premier mot de la deuxième ligne, chez Aya, par chez Ihiou. Il y a ici une faute d'impression.
Il y a plusieurs fautes, vous verrez, il y a marqué Alze, Oïd, Alpe, et à la fin, une section de Gemarat qui est complètement inversée, je vous ferai corriger. Il y a des
fautes. Au lieu de chez Aya, chez Ihiou.
Pardon ? D'accord. Ce n'est pas donc parce qu'en vue qu'Israël soit forcé que Dieu a renversé la montagne. Rak, ma, shehu, mishayev, mise, shehriya osam, à la Torah. Mais c'est ce qui résulte du fait que Dieu leur a imposé la Torah de force. Che mishayev, mise, shehina shemizbora, mafrit meito Israël. C'est la conséquence du fait que Dieu leur a imposé, de cela il en résulte que Dieu ne peut pas se séparer d'Israël. Aval Ikar Hasibo, mais le fondement de la cause, Shehu Mishayev Osam, pour laquelle il les a forcés, c'est-à-dire il y a eu imposition de la Torah, eh bien la raison fondamentale, Hu Hata'am Asher Omarnu, Ki Hatoiro, c'est la raison que nous avons dite, à savoir que la Torah dans le monde, elle est nécessaire. C'est-à-dire que c'est parce que la Torah est de l'ordre du nécessaire, et ça simplement, c'est une conséquence. C'est clair ? Alors maintenant, le Maharal va dire, oui, mais nous avons un Midrash, Tanhuma. Notre Tanhuma d'hier. Et alors là, le Maharal va donc expliquer très finement également comment ce que veut dire le Tanhuma. Et alors, j'ai déjà un peu anticipé en vous disant, jusqu'à présent, il a parlé du Noten et du Matan. C'est-à-dire que, par rapport à Dieu qui donne la Torah, par rapport à la Torah, à l'essence même de la Torah, eh bien, il n'y a pas fait de différence entre Torah écrite et Torah orale, n'est-ce pas ? La Torah est de l'ordre nécessaire. Et par conséquent, elle se donne dans cet ordre-là. Et c'est pour cela que, dans le Tiferet Israël et partout ailleurs, il ne parle pas de cela. Mais ici, il va nous montrer qu'en réalité, ce que dit le Tanhuma, c'est par rapport à Israël. Et c'est par rapport au problème, justement, de la liberté d'Israël avant ou après l'acceptation de la Torah, qu'il y a une distinction à faire entre Torah écrite et Torah orale. Alors là, ce que j'ai souligné, ce ne sont pas les paroles de Tanhuma, c'est la façon dont le Maharal résume, ce que je vous ai mis avec un petit crochet, c'est donc le résumé des quelques mots du Tanhuma qui traitent de ce problème de notre Maharal. Ou le Midrash Tanhuma, le Parchas Noach, et dans le Midrash Tanhuma, dans la Parchas de Noach, qu'est-ce qui est écrit ? Makshe Kushye Zoiz. Ils ont élevé une difficulté. Ils ont soulevé une question difficile. Ils ont soulevé un problème. L'homo Hutzrach Hashem Isborach. Le Kafos Alem Hachegidis. Pourquoi est-ce que Dieu était obligé de renverser sur eux la montagne comme un baquet ? Le Halokvar Omru Nase Venishma. Est-ce qu'auparavant il n'avait pas déjà dit Nase Venishma, nous ferons, nous écouterons. Ou Pirach, et il explique, Shom là-bas, c'est-à-dire dans Tanhuma, qui l'eau qui bloue Rak Torah chez Birtav, qui n'avait accepté, en disant Nase Venishma, il n'avait accepté que la Torah écrite. Velo Torah chez Balpé, et pas la Torah orale. Qui Torah chez Balpé, Yeshbo Dikduke Mitzvot, Shem Azim Kashim. Car la Torah orale, bon, il résume tout ce qu'on a lu hier, car la Torah orale, eh bien, elle contient, comme le rappelait hier Georges Ansel, Dikduke Mitzvot, n'est-ce pas, toutes les implications, tous les détails des commentaires qui sont azim, qui sont forts, cachés, mais difficiles. Ça, là, vous savez, la Torah orale, c'est d'une difficulté extraordinaire. Ou le char, qu'offre les maridis. Et c'est pour cela qu'il a renversé sur la montagne. C'est-à-dire que c'est une chose difficile, et sous-entendu, les juifs n'aurait pas pu accepter cette chose tellement difficile. C'est pour ça qu'il n'aurait pas dit « Nase Venishma », vous entendez. Dans cette première lecture, possible. Ou le Rakhov Olé Margidi. « The Gam » Et c'est pour ça qu'ils auraient. Donc le Maharal dit, voilà. Le Tanhuma semble dire, ils ont dit « Nase Venishma », c'était uniquement pour la Torah écrite. Parce que la Torah écrite, bon, c'est facile. Alors ils ont accepté. Mais la Torah orale, qui contient tellement de difficultés que nous avons vu hier, n'est-ce pas ? Eh bien, Dieu a été obligé de les forcer. Oui ?
Donc, à l'époque de la Torah écrite, il n'y avait pas de Torah orale.